Bonjour, voici la suite du premier épisode avec Denis Pominville. Un des domaines qui nous touche chaque jour et qui est essentiel à toute l'humanité, c'est le monde de l'agriculture et des fermiers. Un univers complexe, important et souvent méconnu par ceux qui ne sont pas du milieu. Oui, on sait c'est quoi une ferme, mais savons-nous vraiment comment tout fonctionne dans une ferme? Personnellement, j'en ai aucune idée. Plongeons ensemble dans cet univers et apprenons aux côtés de diverses personnes du domaine. Je vous présente GoFM dans le pré. Comment que t'as été capable, toi, vraiment, d'avoir ton champ de fermier, ben, tes fermes, tes hectares, puis tout ça, puis être capable de faire tes multiples projets dans ta vie que t'as pu réaliser?
C'est une excellente question. Je me la demande encore aujourd'hui. J'étais un travailleur infatigable, dans le sens que je ne dormais pas, ou très peu.
OK.
Je dormais à peine 3-4 heures par nuit. J'avais mon métier d'avocat. J'avais également, pendant la politique, des édifices en location. J'avais ma ferme et je siégeais sur 5 à 6 conseils d'administration en même temps. Alors,
wow.
Je travaillais jour et nuit, ou presque. Mes nuits se terminaient, mes journées se terminaient souvent vers minuit et souvent vers 4h, 4h du matin, j'étais debout. Je me souviens, des fois, je préparais mes tracteurs et pour les semences au printemps. Je commençais à 4h15, 4h30 et souvent, j'avais d'autres employés qui rentraient à 6h, 6h30. Je revenais du champ, j'avais déjà étendu 3 tonnes d'engrais chimiques quand l'employé rentrait. Puis je prenais ma douche, je déjeunais. Je m'occupais, à l'époque, j'avais un fils handicapé à la maison avec mon épouse. On préparait mon autre enfant qui avait des problèmes également. Et à 8h moins quart, je partais, j'allais travailler, je faisais ma journée d'ouvrage. Souvent, je revenais le soir. Je pouvais aller travailler une couple d'heures dans les champs, puis j'allais à la municipalité aux réunions du conseil, qui commençaient à l'époque à 8 heures, puis on pouvait siéger jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie, et puis je recommençais le lendemain matin. Alors, je travaillais jour et nuit, 6 jours par semaine. J'avais une résistance exceptionnelle, mm-hmm. Je me considérais chanceux, mais j'adorais ce que je faisais. Maintenant, c'est très exigeant. C'est exigeant pour le conjoint aussi, parce que mon épouse se retrouvait souvent tout seul avec nos deux enfants handicapés. Alors, ça a été une vie assez mouvementée.
Donc, la vie familiale puis tout ça aussi, c'est faut que tu gères ça parmi toutes tes travaux puis tout qu'est-ce que tu avais à faire aussi.
Oui, malheureusement, j'ai été, puis je le dis aujourd'hui de façon très franche, j'ai été souvent... Un parent absent à cause de toutes les choses que je faisais qui étaient un peu excessifs. Je m'étais bâti une vie très rapide où tout était fait au quart de tour. Mm-hmm. J'adorais ça. Maintenant, ça a été difficile pour la famille, c'est sûr.
Puis aussi, quand tu étais jeune, ben toi, t'as habité sur une ferme. Fait que pour toi, c'était normal un petit peu parce que ça doit être la réalité quand même pour beaucoup d'agriculteurs, cultivateurs puis fermiers aussi. Parce qu'une ferme, ça demande beaucoup de temps.
C'est évident que tous les agriculteurs qui peuvent nous écouter actuellement savent ce que c'est. Ces gens-là travaillent presque jour et nuit. Ils travaillent très fort. Et en plus... avec l'agriculture moderne. Vous savez, il y a des belles fermes aujourd'hui, il y a des belles machines agricoles, mais il y a du financement. Mm-hmm. La plupart des fermes ont 30 à 35 % d'équité. Donc, ça veut dire qu'ils ont 65-70 % de financement. Mm-hmm. Alors, ça crée une pression énorme également. Actuellement, on en parle beaucoup. Beaucoup de cultivateurs vivent beaucoup d'anxiété, mm-hmm. beaucoup de dépression nerveuse, beaucoup de pression, parce que, surtout quand vous êtes dans les grandes cultures, j'en parlais tantôt, quand vous mettez vos graines dans le sol et que vous mettez des centaines, sinon des millions de dollars en jeu, et que vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme récolte à l'automne, ça crée une pression énorme. Cette pression-là, quand j'étais jeune, mes parents, les voisins ne le vivaient pas parce qu'ils étaient très peu financés. Aujourd'hui, les exploitations agricoles, ce sont des millions qu'on finance. Et le risque est énorme. Toutes les années, si vous avez une mauvaise récolte, ça peut mettre fin à votre passion, qui est la passion de l'agriculture. Alors, c'est difficile aujourd'hui. Je pense que malgré la belle expérience que la plupart des cultivateurs ont, ils ont toujours ce risque énorme, cette anxiété de rencontrer les paiements à tous les mois.
Ben oui, parce que si les tout ce qu'ils mettent dans le sol, c'est financé, ça veut dire que c'est d'autres gens qui prêtent de l'argent ou qui donnent de l'argent à ces agriculteurs-là. Puis là, tu sais pas, puis toi, tu veux avoir la meilleure récolte, mais souvent, ça joue beaucoup avec Mère Nature.
Ça joue beaucoup avec la Mère Nature et ça joue avec le prix des céréales.
Mm-hmm.
Si les céréales se vendent à 300, 400, 500 $ la tonne, exemple, et que demain matin, le marché tombe de 100 ou 150 $ de moins la tonne, ben le profit n'est plus là au bout de la ligne.
Mm-hmm.
Parce que si vous produisez du maïs, vous devez avoir une récolte maximum et il faut que vos prix, que le prix des tonnes de céréales ou du boisseau de céréales soit bon pour rencontrer vos dépenses et faire un profit. Alors c'est toujours ça, cette marge de manœuvre, elle est toujours risquée.
Mm-hmm. Parce que tu sais pas à la fin de l'année si tu vas être capable parce que c'est beaucoup d'enjeux que les gens peuvent pas contrôler.
Non. Tu contrôles pas la température définitivement. Tu contrôles pas le prix du marché. Et d'autres facteurs également. Vous avez aujourd'hui les machines agricoles coûtent tellement cher que si vous avez des bris mécaniques,
mm-hmm.
est-ce que vous aviez prévu que ça va il va y avoir 15 000, 20 000, 25 000 $ pour réparer telle ou telle machine? Ça crée des trous dans le budget.
Puis aussi, tu mentionnes 20 000, 25 000 $ mais ça peut être beaucoup plus si la machine, c'est mieux de la remplacer.
Ah ben oui, si là, on ne peut pas réparer ou ça casse trop souvent, elle est trop d'usure, à ce moment-là, vous devez acheter une nouvelle machine ou vous devez la louer parce que maintenant, il y a beaucoup de cultivateurs qui vont louer les machines, mais il y a des coûts énormes. Et c'est du financement. C'est toujours du financement. Aujourd'hui, les exploitations agricoles, il faut que les gens soient bons dans les chiffres parce que c'est des entreprises avec un gros risque de financement.
Donc, c'est pas juste le... Il y a beaucoup le stéréotype qui est un peu plate, comme les fermiers, c'est des gens qui sont pas peut-être... qui ont pas été à l'école ou... et puis tout ça, qui n'a pas poussé. Mais maintenant, c'est plus ça. Il faut vraiment être bien avec bon avec les chiffres. Puis...
La plupart des cultivateurs aujourd'hui ont de la formation en agriculture.
Mm-hmm.
Même beaucoup ont des diplômes universitaires en agronomie. Mm-hmm. Non, ce n'est plus, ce n'est plus celui qui n'a pas de formation. Mm-hmm. La majorité des cultivateurs maintenant ont beaucoup de formation collégiale ou universitaire et sont au point de toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles façons de gérer des entreprises. Parce que ce n'est plus la ferme qu'on a connue, ce sont des entreprises avec des millions et des millions d'investis.
Donc maintenant, des fermiers, c'est quasiment des entrepreneurs.
Ce sont tous des entrepreneurs maintenant.
Puis, c'est pour ça que ça doit aussi affecter beaucoup les fermiers, les agriculteurs, etc. La santé mentale, comme on a parlé un petit peu, c'est vraiment tout ce risque-là.
Oui, on n'en parlait pas il y a plusieurs années. Maintenant, c'est plus ouvert. On donne des cours, on donne de la formation, on donne de l'aide parce que les cultivateurs vivent énormément de pression. Énormément d'anxiété. Ils ont beaucoup besoin d'aide à passer à travers parce que le risque financier est gros. Ils sont soumis à, comme on l'a dit tantôt, la température qu'ils ne contrôlent pas, au prix des céréales qu'ils ne contrôlent pas, au prix du financement qu'ils ne contrôlent pas. Alors, et comme il y a beaucoup de machinerie, les brisures, si on brise, les factures, etc. Alors, ça crée énormément de pression et beaucoup, beaucoup de cultivateurs vivent des dépressions maintenant, ont besoin d'aide psychologique.
Puis, surtout, ça doit faire un gros effet sur la famille.
Définitivement. Vous savez, c'est pas toujours très connu. Il y a des accidents, beaucoup d'accidents sur les fermes. Il y a des mortalités. Et quand vous êtes en dépression, vous n'êtes pas alerte sur la ferme. Vous savez, quand vous travaillez avec toutes ces machineries-là, il y a des risques. Il faut être très extrêmement prudent. Mais malgré tout, les accidents peuvent arriver. Non, ce n'est pas malgré la passion. Il faut vraiment avoir la passion aujourd'hui pour vivre en agriculture. C'est un très beau métier. Je suis fier de voir qu'il y a des gens qui réussissent très, très bien. Malheureusement, on sait qu'il y a des suicides, il y a des dépressions, il y a de la maladie. Et il faut être vigilant pour la famille qui vit avec des gens qui tout à coup s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes d'anxiété, de dépression, etc.
Puis des fois, c'est pas facile à voir non plus, c'est juste de voir les signes, de donner, d'être là pour les gens aussi qui en ont besoin.
Ouais, les signes, c'est la morosité, le manque d'entrain, la colère, le sens qu'ils se sentent perdus un peu. Alors, non, pour la famille, là, c'est une surveillance constante.
Ben oui. Et aussi, un autre des problèmes qui vient de plus en plus sur les fermes, c'est le manque de relève puis le manque de personnes qui viennent travailler. Ça, on a mentionné tantôt aussi que maintenant, ça prend plus que des bras travailler sur une ferme aussi.
Oui, ça prend plus que des bras. On sait, par exemple, que beaucoup de fermes laitières actuellement ont changé vers des robots pour traire les vaches. Alors, beaucoup, beaucoup de fermes laitières maintenant sont équipées de robots. Ou de salon de traite. Maintenant, si vous avez un salon de traite, ça prend des gens pour traire les vaches deux ou trois fois par jour, parce que dans beaucoup de fermes, on va traire les vaches trois fois par jour. Et à ce moment-là, vous devez faire appel du personnel étranger. Alors, il y a beaucoup de gens de l'étranger qui viennent travailler sur les fermes. Actuellement, on parle beaucoup des travailleurs étrangers saisonniers, mais des travailleurs étrangers réguliers. Et actuellement, en agriculture, au Canada, là, si on n'avait pas ces travailleurs étrangers, dans beaucoup de secteurs, on ne pourrait absolument pas opérer. Ça serait impossible.
Ah oui, c'est autant que ça.
C'est extrêmement sérieux. Tout le domaine des fruits et légumes, si vous n'aviez pas les travailleurs étrangers, ça ne fonctionne pas. C'est impossible parce que les Canadiens ne veulent plus occuper ces postes-là. Dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans la volaille, dans le porc, dans les vaches laitières, si vous n'aviez pas, la plupart des fermes, si vous n'aviez pas des travailleurs étrangers, vous ne pourriez pas fonctionner. Alors, on est rendu là.
Puis, est-ce que tu penses qu'il y a une chose que le gouvernement pourrait faire justement pour encourager les gens à aller dans le domaine de l'agriculture puis des fermes et tout ça?
Il y a un problème au Canada depuis déjà plusieurs années. Puis, je l'ai vécu, moi, il y a 30 ans passé. J'étais plus capable d'avoir des gens pour travailler ou déplacer manuellement des petites balles. Alors, il a fallu que je me tourne vers les travailleurs étrangers. Puis, à l'époque, ça commençait à peine. Les Canadiens, en général, ne veulent plus travailler physiquement. Très dur, c'est très dur du matin au soir. Alors, c'est pour ça que le travailleur étranger, lui qui est habitué, Ça lui permet d'améliorer son sort par rapport à ce qu'il vit dans son pays. Alors, lui est prêt à travailler. Vous savez, les gens qui travaillent, exemple, dans les grandes productions de légumes au Canada, que ce soit les fraises, les choux, etc., travaillent du matin au soir à toutes sortes de conditions.
Mm-hmm.
Il fait beau, il fait froid, il pleut, ils vont travailler pareil. Trouver des Canadiens qui vont le faire, malheureusement, il y en a de moins en moins.
Mm-hmm. Puis surtout en agriculture, c'est tu choisis pas la météo, c'est si les choses sont prêtes à être récoltées, c'est il faut être dans les champs.
Oui, c'est un métier où il n'y a pas de choix. Quand c'est le temps de récolter, vous devez récolter. À moins que la température fasse que ce soit impossible, là, mais vous devez récolter, sinon vous perdez votre récolte.
Mm-hmm. Puis, comme on a mentionné, ça peut être des millions qui sont investis juste dans les récoltes, là.
Ah, écoutez, vous avez vu, il y a quelques jours encore à la télévision, cultivateur qui disait qu'il avait trop plu, il a perdu, il était à 50 000 $ de perte pour ses fraises.
Wow!
En l'espace d'une semaine ou deux. Et ça peut être n'importe quelle production.
Mm-hmm.
Tu sais? Il y a des gens qui me disent que cette année, dans la région, il pleut beaucoup. Donc, c'est difficile de faire du bon foin sec. Alors, mm-hmm. Il y a une perte de valeur, il y a une perte de qualité. Alors, c'est ça la température. Les cultivateurs sont soumis à cette température dont ils ne contrôlent pas, puis ils en subissent les conséquences.
Parce que des fois, ça peut être positif, comme tu as mentionné le soya, que maintenant, ça va bien. Tu sais, au Canada, tu peux les faire pousser puis tout ça, mais pour d'autres choses, ça a un impact néfaste aussi.
La température, que ce soit... il faut qu'il y ait beaucoup de soleil à l'été. Il faut pas que ça soit trop sec. Il faut pas que ça soit trop de pluie. Alors, c'est toujours une question de dosage.
C'est ça, il faut un petit peu de tout, parce que c'est quand tu n'en as pas assez, c'est pas beaucoup, c'est pas bon, mais quand tu en as trop, c'est comme si tu n'en as pas assez.
Exactement. Alors, c'est un métier où vous êtes soumis à cet impondérable, la température.
Puis, ça peut jouer des tours. Si des fois, des années, ça peut être excellente. Vous pouvez avoir les meilleures récoltes de votre vie, nager dans le blé, puis tout ça. Puis, il y a des années comme cette année où est-ce que on a 40 000 litres de pluie par semaine, là, on dirait, puis c'est tout pourri.
Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, une année, c'était très sec.
Mm-hmm.
Et au point où notre première récolte de foin, puis on en faisait des milliers de balles, on avait eu la première récolte, c'était tellement sec qu'on avait eu 1400 balles de foin. Alors, il n'y en avait pas.
Mm-hmm.
Et une autre année, il s'était mis à pleuvoir un peu comme on a cette année, et il fallait mettre des roues doubles sur la presse parce qu'on ne pouvait pas passer dans les champs, on marquait le champ partout. Et il fallait presser, laisser les balles sur le sol parce qu'on ne pouvait pas traîner la voiture. À l'époque, on chargeait derrière la presse. C'était impossible cette année-là. Alors, dans 2-3 ans, vous aviez, comme le jour et la nuit, un contraste énorme. Et il n'y a rien que vous pouvez faire.
Mm-hmm.
Vous subissez la température et vous espérez seulement que la semaine prochaine, il va faire plus beau puis que votre récolte va s'améliorer, etc.
Puis l'hiver, est-ce que ça joue un grand morceau dans la grande culture?
Non. L'hiver, c'est la période pour préparer les semences de l'année suivante, pour marchander, peut-être pour changer des machines, pour réparer à l'entretien des machines. Ceux qui ont des grandes fermes ont tous des entrepôts ou des garages bien équipés. Il faut procéder à la maintenance de la machine, réparer, préparer pour les saisons prochaines. Sinon, vous devez marchander pour acheter une nouvelle pièce d'équipement, acheter le prix des intrants, des semences, des engrais. Alors, l'hiver, c'est la préparation.
L'hiver, c'est la préparation, mais est-ce que s'il fait trop froid, est-ce que ça peut peut-être geler les semences ou le blé, t'as dit qu'il peut être là quelques années, mais est-ce que s'il fait beaucoup trop froid, ça peut tuer le blé?
Non, le blé, c'est semé annuellement. Vous le semez soit à l'automne et vous récoltez plus tôt dans la saison suivante. Non, c'est pas ça qui est un problème. La luzerne.
Ah, oh, la luzerne, désolé.
Ouais, je parlais de la luzerne, par exemple. Non, elle ne gèlera pas l'hiver, à moins que le couvert de neige n'est pas là. Le couvert de neige va servir d'isolant.
Mm-hmm.
Ou bien non, qu'elle soit noyée. Si, par exemple, vous avez du verglas à l'hiver, mm-hmm, et il n'y a pas de neige, le verglas va faire en sorte que la plante va mourir étouffée parce qu'il n'y a pas d'air qui respire. Il y a de l'air qui... La plante peut respirer à travers la neige, mais pas à travers la glace.
Ah, oh, OK. Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou. Puis, une des dernières petites questions que j'ai pour vous, c'est maintenant, vous louez votre ferme. C'est quoi la différence entre, tu sais, appartenir, puis vous-même, vous faites les récoltes, puis tout ça, puis la louer, c'est...
Ce qui arrive à cause de mon âge, à un moment donné, j'ai vendu passablement de mon équipement de ferme. Je me suis gardé quelques pièces d'équipement pour faire l'entretien. Alors, je fais l'entretien de la ferme. Il y a toujours des choses à faire. Exemple, le drainage qui a été fait il y a 50 ans passé, les sorties de drainage, il faut les refaire. Parfois, il y a eu un peu de compaction. Il faut faire des tranchées françaises en roche. Alors, il y a du nivellement à faire, toujours un peu de choses à faire. Ce que je n'ai plus, c'est le risque de la récolte. Mm-hmm. En louant la ferme, c'est le cultivateur qui assume la récolte, qui assume le risque. Est-ce qu'il va y avoir une bonne récolte, une mauvaise récolte? Alors, l'avantage de louer, c'est simplement, à tous les mois, je reçois ma paye.
OK. Donc, toi, ça t'enlève à un gros stress parce que t'es à la place que c'est toi qui s'occupe de la récolte. T'es comme, OK, vous autres, occupez-vous de ça. Moi, j'ai le terrain, mais je fais rien avec, pareil.
C'est ça. Alors, on loue la ferme maintenant à un prix fixe par acre. Mm-hmm. Et moi, mes revenus sont assurés. Alors, que la récolte soit bonne, qu'elle soit moins bonne. Quoique je peux dire que le cultivateur qui cultive chez nous a beaucoup de connaissances, fait bien ça, a toujours des récoltes, de très, très bonnes récoltes. Ma ferme n'a jamais connu une mauvaise récolte parce que j'ai quatre sortes de sol.
Mm-hmm.
Si jamais il y a un petit peu moins sur la glaise, le Saint-Delume va compenser et vice-versa. Alors, je n'ai jamais perdu une récolte, ça n'existe pas chez nous. Alors qu'il y a des endroits, par exemple, dans la région d'Alfred Lefebvre, où c'est un sol argileux très, très dur,
mm-hmm,
si ce n'est pas fait dans des conditions idéales, il y a presque c'est trop sec ou c'est trop trempe. Alors, il y en a qui ont ce risque-là, mais chez moi, ça n'existe pas.
OK, puis dans ces conditions idéales-là, tu sais, un jour, tu peux aller justement planter parce que tu crois que c'est la condition idéale, puis là, la journée d'après, c'est genre, OK, on a un déluge de pluie.
Oh, écoutez, par exemple, mon frère qui est à Alfred, André, lui, il a du terrain qui est argileux, c'est plat, et il y a des années qui a un gros pourcentage de pertes parce que c'est trop sec ou c'est trop trempe. La glaise, c'est particulier. Cette grosse glaise solide-là, c'est particulier. Alors, non, chez nous, on n'est pas inquiet.
Ah, ben c'est une bonne chose que vous avez ça, ces dernières choses-là. Et aussi, pour ceux qui veulent peut-être se lancer en agriculture, est-ce que tu as quelque chose à leur recommander? Parce que vu que c'est un domaine que moins en moins de personnes vont...
Ben écoutez, premièrement, il faut être passionné.
Mm-hmm.
Il faut aimer ça. Vous devez avoir soit vos parents qui vont vous transférer la ferme, parce que à cause des coûts énormes,
mm-hmm,
les terrains agricoles ont pris énormément de valeur. Ça devient quasiment prohibitif à l'achat maintenant. Vous pouvez louer, comme certains font aujourd'hui. Il y a l'achat des machineries, etc. Alors, est-ce que vous avez du bon financement? C'est la première chose. Est-ce que vous avez un terrain disponible, un bon terrain disponible? Est-ce que vous êtes obligé de recommencer à faire le drainage ou s'il n'y en a pas eu? Avez-vous énormément de terrassement à faire, etc., etc.? Alors, on pourrait énumérer beaucoup de facteurs. Mais premièrement, il faut avoir la passion.
Mm-hmm.
Il faut que vous ayez de l'aide. Si vous n'avez pas d'aide, c'est difficile à partir en agriculture aujourd'hui, à moins que vous commenciez une agriculture différente. Vous avez beaucoup de petites fermes qui recommencent, où on fait de la production organique, où on fait une production individuelle, parce qu'ils sont le couple ou une petite famille. Alors, on fait des paniers, on fait de la livraison de paniers durant la saison. Alors, il y a cette agriculture-là qui recommence, qui est différente, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Là, vous avez besoin de moins de financement, mais c'est très exigeant. Mm-hmm. Vous devez travailler fort. On retourne un peu à bout de bras, comme vous disiez tantôt. C'est une nouvelle agriculture, mais à ce moment-là, vous n'avez pas besoin du financement des grandes fermes. Parce que les grandes fermes, aujourd'hui, c'est des millions et des millions. Est-ce que vous avez la capacité d'emprunter des millions? C'est la première chose que vous devez vous demander.
Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès à ça.
Non, à moins que vous avez une ferme qui est transférée d'une génération à l'autre.
Mm-hmm.
En passant, vous avez maintenant beaucoup de fermes qui sont opérées par des femmes.
Mm-hmm.
Je connais beaucoup de producteurs, soit dans la volaille, dans les œufs, etc. Ce sont des femmes qui prennent la relève, dépendant des enfants dans la famille. Mais c'est parce que les parents étaient là, puis ils l'ont parti, puis là, tranquillement, à travers l'incorporation, on peut transférer les actions de la compagnie et le transfert se fait graduellement. Alors, il y a toutes sortes de principes qui font en sorte qu'on peut partir d'une génération, transférer la ferme à une autre. Mais celui qui veut partir demain matin sans avoir l'aide familiale, surtout pour les grandes exploitations, c'est devenu presque impossible.
Puis tu penses que c'est une des grosses barrières qu'il y a en ce moment de pourquoi qu'on a de moins en moins d'agriculteurs?
Dans les grandes exploitations, on est rendu, vous devez être gros pour pouvoir rencontrer les énormes défis financiers. Alors, vous devez être très, très gros. Ou être très petit, comme je parlais tantôt, c'est une autre agriculture. Alors, il semble qu'il n'y ait plus de moyen entre les deux. Il n'y a plus de terme entre les deux. Vous êtes très, très gros ou vous avez une différente agriculture, une différente approche.
Et cette différente approche-là, c'est depuis quand que ça a commencé, tu crois? Puis pourquoi que les gens commencent à revenir à ça?
Bien, c'est parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut plus financer. Moi, les gens me disent, ben je peux pas dépenser, j'ai pas des millions pour m'établir sur une grande ferme, acheter de l'équipement, louer des terrains, acheter des terrains, etc. Alors, je préfère développer une agriculture qui est plus à mon niveau, que je peux financer. J'ai moins de revenus, mais j'ai moins de dépenses. L'amour, je vais vous donner un exemple, l'amour dans les prix, il y a quelques années, vous aviez un agriculteur, un jeune agriculteur. Il avait retourné aux chevaux.
Ah oui!
Il avait retourné aux chevaux. Alors, ça, c'est un exemple. Puis, il y a beaucoup d'exploitations où c'est des paniers qu'on fait la livraison maintenant. Ça peut être dans le domaine des fleurs, ça peut être dans les légumes, dans les fruits, ça peut être... Puis, il y en a qui transforment. Il y en a qui ont été dans les chèvres, du lait de chèvre. Il y en a qui vont aller dans les moutons. Il y a une nouvelle agriculture qui est en train de se développer qui fait en sorte que ça se fait parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou ils ne veulent pas aller dans le domaine des moyens financiers et de toute l'anxiété qui vient avec.
Donc, c'est mieux pour la santé mentale, c'est mieux pour le compte de banque aussi.
Ouais. Vous savez, les serres, avec les serres aujourd'hui, on peut produire... dans certains cas, on peut produire à l'année longue. Dépendant de la qualité des serres que vous avez, Puis là, il y a de l'aide gouvernementale aussi pour aider. Parce qu'on peut, produire des légumes, des fraises à la verticale maintenant. Mm-hmm. Alors, il y a une nouvelle agriculture qui se développe, qui permet aux gens d'accéder au domaine agricole, mais dans une façon très, très différente des grandes exploitations agricoles qu'on connaît aujourd'hui.
OK, donc c'est dans une période de transition en ce moment.
On est dans une période de transition où vous allez être très, très, très gros ou vous allez dans un domaine nouveau.
OK, puis essayer de nouvelles choses pour essayer de sortir du lot un petit peu.
Oui. Alors, il y a des gens, par exemple, qui m'ont dit, moi, je vais aller dans l'agriculture sous serre, avec des serres. Je vais produire et puis ça va me coûter moins cher, mon investissement est moins grand. Mm-hmm. Et c'est un autre domaine. Je vais vivre une vie un peu différente, mm-hmm. moins stressante.
Ouais, moins stressante, puis aussi, ça doit demander moins d'heures de travail aussi.
Non, ils vont travailler, ils vont travailler de très longues heures parce que souvent, ils sont très peu de gens pour faire...
Ah, c'est vrai.
Pour faire le travail. Alors, les gens vont travailler de nombreuses heures, mais ils travaillent à leur propre rythme. Et ils sont moins pressés, disons, mm-hmm. parce qu'ils ont un temps un peu plus... Leur récolte s'échelonne sur toute l'année ou presque, plusieurs mois. Alors que l'autre, les grandes cultures, là, vous avez 3 semaines à peu près pour faire les semences au printemps, puis vous avez 3 semaines et un mois pour faire la récolte à l'automne, dépendant de ce que vous semez. Alors, c'est des temps très courts mm-hmm. pour... toutes les revenus de votre ferme.
Ben oui, puis si tout tombe à l'eau ou s'il n'y a pas assez d'eau ou si trop de soleil, etc., ben là, c'est une année morte.
C'est une année qui peut mettre fin à votre exploitation agricole.
Ah oui, tu peux. Il y a des gens qui perdent tout avec une mauvaise récolte. Oui.
Vous savez, si vous êtes endetté, comme on dit, au maximum, et que vous connaissez une récolte ou 2 mauvaises récoltes ou des problèmes d'équipement agricole qui vous coûtent très, très cher, si vous ne parvenez plus à faire vos paiements...
Ils vont venir chercher.
OK. À ce moment-là, vous êtes souvent obligé de vendre ou d'abandonner. Non, c'est un métier extrêmement stressant dans ce sens-là aujourd'hui parce que mm-hmm. c'est une agriculture gigantesque. Mm-hmm. Ce sont des grandes exploitations et vous jouez avec des millions de dollars. Mm-hmm. Et il est connu que dans l'agriculture, le retour sur votre financement dans toutes les exploitations, soit que vous soyez dans le domaine de la construction ou d'autres domaines, l'agriculture, votre marge de profit, de retour sur votre financement est une des plus faibles. Mm-hmm. Alors, si vous êtes déjà... faible et que vous avez des mauvaises récoltes, ça peut mettre votre exploitation en danger, définitivement.
Et as-tu un petit dernier mot de fin pour les gens?
Oui. Pour ceux qui sont passionnés d'agriculture et qui aiment ça, allez-y.
Allez-y. Même si ça peut faire peur un petit peu.
Oui, vous avez toujours ce risque, mais si c'est votre passion, si c'est ça que vous voulez faire, allez-y. Moi, j'ai aimé faire de l'agriculture. Mes frères en ont fait. On a toujours aimé ça, puis on a toujours été passionnés. Puis tous les jours, je rencontre des gens qui sont encore passionnés d'agriculture. Vous savez, quand vous semez au printemps et que vous avez une belle récolte à l'automne, vous avez une joie extraordinaire. Mm-hmm. Quand vous avez des beaux animaux et qu'il y a une excellente production, vous avez une joie extraordinaire. Comme quelqu'un disait, je me lève la nuit pour entendre les plantes pousser. Wow. Parce que ça veut dire que les plantes poussent la nuit, ils n'ont pas le jour.
Oui, parce que le jour, il absorbe tout le soleil pour pouvoir...
Le jour, il dorme.
Ouais, mais ils ne font pas la photosynthèse durant le jour.
C'est la nuit.
OK. Donc, même si c'est vraiment un métier qui peut être stressant, qui peut être difficile par moment, puis tout ça, selon toi, c'est un des plus beaux métiers?
Toujours. Ça a toujours été un bon métier parce que vous avez, à la fin de la journée, quand ça va bien, il y a une satisfaction énorme d'avoir accompli des choses. Avoir une belle récolte, pour ceux qui ont été élevés sur une ferme ou qui le sont aujourd'hui, le plaisir d'avoir une bonne récolte, ça ne s'explique pas, ça se vit.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous jaser aujourd'hui, Denis.
Merci, ça fait plaisir.
Cette émission a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.